Chapitre 72. Grégoire Millet tira de petites bouffées rapides sur sa pipe pour embraser le tabac. La lumière crue du plafonnier renforçait la profondeur de ses rides, surtout sur le front.
Lagarde a tout de suite imposé sa vision des choses, expliqua-t-il à Florence. Il nous demandait d'appliquer ses recommandations sur nos patients et d'éduquer leur entourage. En ce qui concerne l'homosexualité, il écrivait dans des notes internes que les exhibitions parentales étaient importantes pour un bon développement hétérosexuel de l'enfant, ou encore qu'il fallait encourager les géniteurs à se dénuder dans la nature s'ils en avaient l'occasion, afin de prendre de l'assurance et de pouvoir se montrer nus sans gêne devant leur progéniture. Si vous lisiez ça aujourd'hui, avouez que ça ressemblerait à une mauvaise plaisanterie. Et pourtant, ça n'en était pas une.
Un nuage grisâtre s'installa entre lui et Florence. Cette dernière eut soudain envie de fumer, mais se retint. Les odeurs de pipe et de cigarettes mêlées lui donneraient mal à la tête.
« Il faut se resituer dans le contexte de l'époque », précisa son interlocuteur. « Je vous rappelle, ou vous apprends peut-être, parce que vous êtes jeune, que dans ces années-là, certains psychologues américains très controversés parlaient de la pédophilie comme d'un moyen plausible de soigner les comportements sexuels déviants chez des mineurs. Ils affirmaient qu'être le partenaire d'un proche ou d'une personne plus âgée n'avait pas nécessairement d'effet négatif sur l'enfant. Vous imaginez ? La pédophilie, qui est la plupart du temps la cause de ces comportements déviants chez des gosses, était préconisée pour les traiter. Le serpent qui se mord la queue, en somme. »
Ce qu'entendait l'inspectrice ne la surprenait pas. Elle avait le souvenir d'une des diffusions de l'émission de Bernard Pivot, apostrophe, il y avait un an peut-être, dans laquelle il avait reçu cet écrivain, Mazneff ou un nom dans ce goût-là. Celui-ci avait prôné en toute impunité la pédophilie dans un programme littéraire devant des millions de téléspectateurs. Tout cela existait, en pleine lumière qui plus est, elle le savait. Et en 8 ans à la crime, forcément, elle en avait vu. Quelque part, elle était heureuse de ne pas être mère. Millet se dirigea vers une armoire métallique et l'ouvrit.
Les patients qui intéressaient la garde par-dessus tout, c'étaient les intersexués. C'est sur eux qu'il a le plus travaillé et publié. Ils étaient, bien plus que les homosexuels, le terreau idéal pour étudier sa théorie de la malléabilité psychosexuelle.
Par intersexué, vous voulez dire ceux qu'on qualifie d'hermaphrodites ?
Ce n'est pas tout à fait la même chose. Les vrais hermaphrodites sont très rares. Ce sont des individus autant mâles que femelles qui développent à la fois des tissus ovariens et des tissus testiculaires. Leurs deux organes fonctionnent parfaitement. Les intersexués, eux, naissent avec une anatomie sexuelle atypique qui n'est pas obligatoirement visible. Leurs organes externes peuvent ressembler à ceux de n'importe quel garçon ou fille, mais leur anatomie reproductive interne peut être à l'opposé de leur sexe apparent. Les cas d'intersexualité sont nombreux et très différents les uns des autres.
Le chef de service considéra un instant la flic avant de poursuivre.
Nous accueillons ce genre de jeunes gens à l'institut. Leur mal-être était flagrant. Des filles qui avaient, dans leur manière, leur façon de marcher, des attitudes masculines. Des garçons qui, malgré les efforts désespérés de leurs parents, jouaient à la poupée ou voulaient enfiler des robes. Lagarde les appelait les fruits des expérimentations menées par la nature. Et il devait permettre, selon lui, de résoudre l'un des plus anciens problèmes posés à la science. La perception de notre identité sexuée est-elle déterminée par l'inné ou par l'acquis ?
À ce moment, Millet sortit un livre de l'armoire et le lui tendit.
Vous n'observerez dans cet ouvrage que des photos de femmes qui mettent un bébé au monde. Les clichés sont esthétiques mais rudes. Rien n'est épargné.
Florence tourna les pages, le nez plissé. Contre toute attente, il lui parut soudain plus simple de regarder un cadavre mutilé qu'un accouchement.
Ce bouquin faisait partie de la panoplie d'outils qu'utilisait Lagarde pour éduquer les garçons intersexués et leur couper l'envie d'être femmes. Il s'agissait pour lui de schémas de genre. Autrement dit, l'idée était de forcer un intersexué que les parents avaient élevé dans un genre donné, depuis la naissance, à rester enfermé dans ce genre. Il se servait également d'images d'adultes en pleine relation sexuelle pour consolider ces schémas. Il demandait ensuite aux enfants de se déshabiller pour décrire leur anatomie. Il leur imposait même de mimer des positions sexuelles homme ou femme. Et, embarrassé, il désigna de la tête la pile de photos qu'avait apportée Florence. Leur montrer leur propre corps nu, c'était une étape de sa méthode. Et si, personnellement, je trouvais cela abominable, Lagarde n'a jamais été inquiétée, ni par la hiérarchie, ni par les familles. Les gens l'estimaient, vous comprenez ?
L'inspectrice acquiesça sans conviction. Albert Lagarde avait été un prédateur dangereux qui n'avait même pas éprouvé le besoin de se cacher pour commettre ses crimes. La blouse blanche, l'autorité, la réputation. et il avait sévi en toute impunité.
Le pire, c'est que ces patients étaient la preuve que la théorie de l'enfant né page blanche ne fonctionnait pas, puisque malgré l'éducation, malgré le conditionnement social, ils sentaient au fond d'eux qu'ils n'étaient pas celui ou celle qu'on voulait qu'ils soient. Leur gène les rappelait à leur genre d'origine. Mais Lagarde considérait que la chirurgie réparatrice pédiatrique, qui se développait à grands pas dans ces années-là, allait résoudre ce problème. Ainsi, les parents choisiraient le genre de leur bébé intersexué dès ses premières semaines de vie, et on lui attribuerait le sexe adéquat grâce à d'innombrables opérations. Évidemment, ne jamais rien révéler à l'enfant était un impératif pour espérer le succès de cette solution. Un poids sacrément lourd à porter, n'est-ce pas ?
Son visage affichait très clairement le dépit qu'il habitait.
En fin de compte, malgré l'insistance de Lagarde et sa volonté de tout réformer, notre centre n'avait pas vocation à mettre en pratique ce type de traitement. Ses relations se sont dégradées avec le directeur, et il a fini par démissionner. Après son départ, je n'ai pas essayé de savoir ce qu'il était devenu, mais, pour être honnête, je ne suis pas étonné qu'il se soit retrouvé si loin d'ici, dans un hôpital, au sein d'un service d'urologie pédiatrique.
Florence commençait à entrevoir l'horrible scénario qui se dessinait dans la tête de son interlocuteur.
L'endroit idéal pour appliquer ces théories, souffla-t-elle. Tout reprendre de zéro ailleurs, mais aux côtés d'un chirurgien qui partagerait ses convictions.
Sans doute, oui. La flic cernait désormais précisément le rôle de chacun dans ce duo escrémieux Lagarde. Tous ces gamins qu'ils avaient forcés à être ce qu'ils n'étaient pas au fond d'eux-mêmes, à coups d'interventions au bloc, d'images choquantes, d'humiliations, de menaces. Elle planta son regard sur la photo de la fillette qu'avait été Delphine Escrémieux. Preuve évidente que les deux hommes n'étaient pas seulement des scientifiques convaincus par leurs idées, mais des pervers qui avaient profité de leur statut pour faire toutes sortes de monstruosités sur des mômes.
Aujourd'hui, on sait si cette théorie de la malléabilité associée à la chirurgie infantile fonctionne ? Demanda-t-elle.
Ça a été un brillant échec, dit-il en prenant place derrière son bureau.
L'identité sexuelle est un sujet de recherche d'une incroyable complexité, mais une chose est sûre, en allant à l'encontre du ressenti d'un enfant intersexué, on ouvre grand la porte à des suicides ou de graves maladies mentales. Celles-ci, d'ordinaire, s'installent durant l'adolescence. Angoisse profonde, troubles dissociatifs de la personnalité, schizophrénie.
Les maladies mentales. Florence revoyait la scène de crime à Saint-Forger. Les mannequins dans l'appartement de David Merlin. Ce contrôle, mais aussi cette folie qui se dégageait de tout ce qui concernait le méticuleux. Elle sortit d'autres clichés de sa pochette. Les disposa sur le bureau tout en expliquant.
J'aurais besoin de votre avis. On pense que l'assassin qu'on traque, celui qui constitue un danger pour Lagarde, est passé dans sa jeunesse entre les mains de ce dernier et de son acolyte à l'hôpital Meurin. Peut-être même fait-il partie de ces enfants qui ont été photographiés nus. En tout cas, voilà ce qu'il a peint il y a quelques semaines sur les murs du hall de l'une de ses victimes.
Millet observa les dessins, sourcils froncés.
Les gamètes, hommes et femmes.
Il a brûlé au chalumeau les organes génitaux de celle qui habitait là, continua l'inspectrice.
Je peux vous montrer ? Moi aussi j'ai mon stock de trucs difficiles à encaisser, je vous préviens.
Il acquiesça et observa.
Mon Dieu !
Et ça, ce sont des prises de vue de l'endroit où il vit. Ces mannequins trônent dans sa salle à manger telle que vous les voyez là. Il a, là encore, brûlé le sexe des femmes et il a travesti les hommes.
Le chef de service scruta chaque cliché.
Florence lui laissa le temps de digérer tout ça avant de le questionner.
Croyez-vous que ces actes puissent être ceux d'un individu intersexué ou présentant une ambiguïté sexuelle, comme vous dites ? Pour compliquer l'équation, sinon ce serait trop simple, on sait également qu'il a une sœur ou un frère jumeau.
Millet se figea. Il plongea ses petits yeux gris dans ceux de son interlocutrice.
Des jumeaux. Lagarde en parlait ici comme du Graal. Il appelait ça la matched pair idéale.
Précisez, s'il vous plaît.
Il estimait que les vrais jumeaux monozygotes, dont l'ADN porte la même information génétique, dont le cerveau et le système nerveux se sont développés in utero dans le même bain d'hormones, pourraient délivrer la preuve absolue de la véracité de sa théorie des genres. Dès la naissance, l'un serait élevé dans son sexe d'origine et l'autre contre nature. Mais son idée avait peu de chances de trouver un champ d'expérimentation, car il aurait fallu que l'un des nourrissons naisse avec des problèmes génitaux ou que ceux-ci surgissent dans ses premières semaines de vie, qu'il subisse une chirurgie pédiatrique de changement de sexe, qu'il endure d'autres opérations plus tard, type vaginoplastie ou phalloplastie, ainsi que des traitements hormonaux permettant de stimuler la formation des seins ou de freiner la pilosité, par exemple. Et bien sûr que les parents acceptent tout ça. Ça reste plausible, mais je...
Il ne termina pas sa phrase. De nouveau, il observa le cadavre mutilé, puis la forêt de mannequins. Il se renfonça dans son siège, dans un état de sidération manifeste.
« Selon vous, l'assassin que vous traquez est un homme ?»
Florence hésita, puis hocha la tête.
« Tout l'indique. L'un de nos experts nous a signifié que l'ADN du tueur était celui d'un homme. »
Millet fit crisser les poils sur ses joues pensifs. Il avait le regard du physicien confronté à une énigme impossible à résoudre. Il se replongea quelques minutes dans une étude attentive de chaque cliché, puis affirma catégorique.
« Je mettrai ma main à couper que votre tueur, c'est une femme. »